I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, PC, console, mobile, tout le jeu vidéo est là avec vous. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2021, nous sommes 2 semaines seulement avant l'E3, c'est l'épisode numéro 187 et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Trinity alias Priscilla et Geoffroy Piau de l'équipe de Tournament. Comment ça va Trinity? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui?
Et je suis toujours en forme, Patrick.
Toujours en
donc
forme,
j'ai la
je
peste.
Sais.
Voilà, tout va bien, je suis très contente, il y a du soleil. Voilà, ce matin, j'ai bu un petit café en terrasse, tout va bien.
Tu sais, dans les 2 premières minutes d'enregistrement, je n'entends pas ton rire détonnant, là, je m'inquiéterais. C'est à ce moment que je me dirais, merde, il y a un truc qui ne va pas.
Mais
là,
je suis rassurée. Elle n'est pas bien, elle est malade, ça ne va
ça,
plus.
Exactement.
Non, oui, ça va bien. Oui, c'est vrai que je rigole un peu tout le temps, hein, mais tu sais que de rigoler, ça déstresse et ça met de bonne humeur. Hein, donc, je rigole tout le temps.
Non seulement ça te met de bonne humeur, mais ça me met également de bonne humeur. Je suis crevée, mais là, je t'entends, c'est bon, je suis parti pour 1h30 d'émission.
Bon, bah, c'est parfait. Bah, let's go, allez, on y va.
Let's go. Bon, Geoffroy, ça va, t'es en forme aussi, t'es prêt à rigoler également?
Très bien, et oui, en forme,
oula,
prêt à rigoler.
Oula, trop fort,
à...
trop fort. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu satures?
Je
baisse
pas.
Le son.
Je n'ai rien changé.
Vas-y, dis-moi. Donc tu
voilà, trop excité. Voilà, c'est l'enthousiasme.
C'est ça,
qui,
exactement.
Même le micro ne se sent plus. non, ben voilà, très bien. Moi aussi, en pleine forme. Pour une fois, on a du soleil. Espérons que ça tienne jusqu'à 15 heures. Parce que c'est pas gagné. Là, depuis 2 semaines, les
tu
jours
veux que ça tienne
font,
juste assez longtemps pour finir l'émission et sortir en profiter.
Voilà.
Je comprends.
Pouvoir aller prendre un petit peu l'air et qu'il ne se mette pas à pleuvoir dans le reste de la journée comme on est habitué sur Paris depuis quelques semaines maintenant.
Eh bien, bon courage. En attendant, on va éclairer votre journée avec des sujets comme Valve qui se mettrait à faire une console PC portable Switch, un truc du genre, la Switch pour laquelle on a des rumeurs d'une nouvelle version également. On va également parler un petit peu du sujet, un petit peu touchy, de ces dernières semaines sur Twitch, la question de la catégorie Pools, Hot Tubs and Beaches. On va aussi parler un petit peu d'e-sport et évidemment du pré-E3 qui commence à s'activer avec des news de chez Sony, de chez Microsoft, d'Amazon. Bon, ça, c'est pas tout à fait l'E3 qui rachète MGM. Vous me direz, c'est du cinéma, mais non, ça a des conséquences pour le jeu vidéo aussi, possiblement. Et on a plein d'autres petites news. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur Patreon. Cette semaine, je remercie spécifiquement Grégory Schuweiler, Guillaume Emery, Théophile Gibaud, Razorphile, Ludovic Pio, Anansi et le producteur de cet épisode, Stéphane Grégory Sata. Merci à vous tous et toutes de soutenir le rendez-vous jeu. On en parlera dans quelques instants en milieu d'émission. Alors, premier sujet qui est sorti d'un petit peu nulle part, il y a 2 jours, je crois, peut-être même hier, c'est la rumeur d'une machine conçue par Valve qui serait l'équivalent d'une Switch au niveau format, mais dans laquelle serait en réalité un PC. Et ça serait un PC qui... On a déjà vu ce type de machine. Il y a eu plusieurs constructeurs de PC qui ont tenté de créer des PC qui tiendraient dans le format d'une Switch. Souvent, c'était pour différentes raisons un petit peu décevant. Mais quand on a une société comme Valve derrière, on peut imaginer qu'à la fois au niveau matériel et logiciel, ça pourrait donner un écosystème qui, là, pourrait être un petit peu plus intéressant. Je crois qu'évidemment, on ne s'attend pas à pouvoir faire tourner n'importe quel jeu sur une machine comme ça, mais ça pourrait être pour certains jeux une alternative peut-être à la Switch d'une certaine manière. Alors, le nom de code serait StreamPal pour SteamPal, pardon, c'est parce que Steam et StreamPal, c'est genre l'ami de Steam. On aurait un format qui serait, comme je le disais, comparable à celui de la Switch, avec un processeur bien plus faible que sur un PC classique, mais suffisant pour faire tourner certains jeux tout de même. Un OS qui tournerait sur un dérivé de Linux, mais on imagine qu'on pourrait, si on le choisit, installer Windows dessus. Il y a une question de droit de licence que Valve ne veut pas payer pour chaque machine vendue, mais on aurait le droit de le faire si on le souhaite. Et l'autre différence, c'est qu'il y aurait d'une part sur les manettes des touchpads comparables à ceux qu'on avait sur les manettes de Steam, les Steam Controllers, qui n'étaient pas trop mal, mais bon, ce n'était pas non plus la meilleure manière de contrôler nos jeux avec ces petits trucs, mais ça pourrait être utile sur une machine de ce type-là. Et surtout, les, entre guillemets, manettes Joy-Con ne seraient pas détachables. Donc, c'est vraiment une machine qui est un format solide et qu'on pourrait bien sûr brancher sur PC, enfin sur télé ou sur moniteur avec un port USB, on imagine. Donc, il y a quand même une bonne partie des fonctionnalités de la Switch. Est-ce que c'est un truc qui vous parlerait ou est-ce que c'est un truc qui serait genre « Ouais, ça peut être sympa, ça pourrait m'intéresser » ou est-ce que c'est plutôt « Une Switch, j'en ai déjà une, quel est l'intérêt ?» Je suis curieux. Je n'ai même pas d'avis vraiment définitif sur ce truc-là, moi, mais la rumeur est certainement intéressante. Trinity, tu serais cliente d'une SteamPal ?
Pourquoi pas ? Dans le sens où moi, en fait, à l'époque, j'étais pas du tout friande de consoles portables. Vraiment, c'était pas quelque chose qui m'attirait, même quand j'étais jeune, j'ai jamais eu les petites Game Boy, etc. Et tout ce qui était sorti, PSP, tout ça, j'ai jamais acheté parce que ça m'a jamais attirée. Mais depuis qu'il y a eu la Switch, j'avoue que ça m'a fait un peu kiffer de pouvoir jouer à un très bon jeu que j'ai, par exemple, sur console ou sur PC, et de pouvoir y jouer sur ma console. Donc ça peut m'intéresser, d'autant plus que moi je vais bientôt voyager. Donc ouais, en
y a
voyage,
le Trinitri qui arrive.
Et voilà, exactement. Et j'étais pas friande de ça, à part pour me faire des petits kiffs. Tu vois, j'ai un petit peu joué à Don't Starve ou à Zelda dans mon lit, histoire de pousser le vice. Mais j'ai quand même, tu vois, un PC, etc. Donc une console. Donc j'ai tendance à plus jouer sur mon écran et c'est un petit peu accessoire pour moi. Mais dans le cadre de mon voyage, effectivement, en étant nomade, là par contre, ça peut vraiment m'intéresser d'avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant et de pouvoir l'emporter plus facilement.
Ouais, faudra voir, le prix effectivement n'est pas déterminé, on imagine qu'ils peuvent pas être beaucoup plus chers que la Switch, mais du coup ça limite la puissance de la bestiole aussi. L'avantage bien sûr, c'est que on a tous les jeux qu'on a déjà, et il y a une bonne quantité de jeux indés qui pourraient tourner sur une machine pas super puissante, qui seraient déjà en fait disponibles, et puis avec les soldes on a des jeux beaucoup moins chers sur cette plateforme que sur les consoles d'une manière générale. Ça a l'air quand même d'être un produit, je ne veux pas dire de niche, mais qui risque d'avoir un tout petit peu de mal à trouver sa place entre la entre guillemets, vraie Switch et les PC tels qu'ils existent déjà. Geoffroy, toi, tu te vois payer, allez, on va dire 300€, 350€ pour une Switch qui n'en est pas une, mais qui joue tous tes jeux Steam ?
Alors moi, du coup, j'ai déjà une Switch, mais c'est ce que tu disais, je pense que c'est ça, le vrai intérêt qu'il peut y avoir, c'est d'un point de vue économique sur le long terme, par rapport à une Switch. C'est-à-dire que sur une Nintendo, le Nintendo Shop, les jeux restent très chers très longtemps, on sait que Nintendo ne fait pas de solde, ou presque, mais à côté
c'est
de ça, le catalogue indé...
C'est moins vrai depuis qu'ils sont beaucoup en numérique, hein. On a alors des soldes de 30%, mais c'est pas les jeux à 2€, on va dire, qu'on peut avoir sur Steam, c'est vrai.
Mais c'est quand même assez rarement sur les jeux Nintendo, c'est-à-dire que la Switch, elle est vraiment bien pour les jeux Nintendo. Les jeux indés, maintenant, ils sont aussi sur le catalogue. Et comme je disais, c'est bien quand on est nomade. Là, c'est vrai que depuis un an et demi, être un peu cloué chez soi, l'intérêt pour les consoles portables, de mon côté en tout cas, est vraiment retombé. Parce qu'on ne prend plus les transports, on ne prend plus le train. Donc pourquoi pas, après, faut aussi regarder l'historique de Steam avec le hardware. C'est vrai que ça a souvent été des bons produits, mais qu'ils ont rarement réussi à placer. Ils ont difficilement trouvé leur public. Malgré une qualité assez manifeste, hein. J'ai eu un Steam Link, j'ai un Steam Controller, ce sont de bons appareils, mais est-ce qu'ils les ont pas assez marketés, est-ce qu'ils pensent à wait and see.
Ouais, c'est et ils ont aussi évidemment beaucoup travaillé sur la VR. Hein. Ils ont leurs propres appareils de VR, leurs propres casques de VR. Ils sont pas mauvais sur le matériel, c'est sûr, mais on a l'impression que c'est un petit peu genre oh, on pourrait faire ça, ça serait cool. Et puis au final, on n'est pas certain que ça trouve un usage à grande échelle. Il y a des gens qui l'apprécient, mais je suis pas sûr que ça soit un truc de masse qui adresse un marché de masse et donc qui tienne sur le long terme. Mais pourquoi pas, peut-être. Peut-être qu'ils auront d'ailleurs une offre qui serait un petit peu différente de ce qu'on imagine, parce que là, c'est de la spéculation sur l'évidence, en fait. Si on te dit Steam, Switch, bah, tout ce qu'on peut imaginer et immédiatement dans les spéculations. Mais peut-être qu'ils ont quelque chose de différent dans leur sac qui rendrait la chose un petit peu plus attrayante et auquel on ne pense pas. À voir, à voir. Puisqu'on parle de Switch, il y a aussi des rumeurs qui datent d'aujourd'hui, qui viennent encore une fois de chez Bloomberg, sur le fait que la fameuse Switch Pro, dont on parle depuis maintenant, j'ai l'impression, des années, et pourrait être enfin annoncée juste avant le 3, pour annoncer des jeux au moment de l'E3. Donc, on parle du mois prochain, du mois de juin, donc dans quelques semaines, voire moins. Bon, on n'a pas plus d'informations sur le sujet depuis les dernières rumeurs et pas vraiment plus de certitudes, mais des détails sur la chaîne de production, le fait que ça serait possible même avec les problèmes d'approvisionnement dont sont victimes les entreprises de la tech. Bref. Encore une rumeur de plus qui tendrait à dire que la Switch Pro arriverait. Au bout d'un moment, quelqu'un va finir par avoir raison, vous voyez, à force que on dise.
C'est ça. À force, oui, de spéculer, il y a forcément quelque chose qui va tomber juste. Hein.
C'est ça. Au bout d'un moment, finalement, on va finir, et je pourrais dire, mais oui, j'avais raison quand je disais qu'elle sortirait un jour. C'est quoi l'expression ? Une montre qui cassée a quand même raison, donne la bonne heure deux fois par jour ? Bon,
par voilà. Jour.
C'est vrai. C'est vrai.
Patrick, c'est un peu comme une montre cassée, en fait. J'ai parfois, par hasard, un peu raison.
Non, mais c'est vrai que si on regarde l'historique de Nintendo, oui, enfin, on imagine que la Switch Pro, elle arrive. Ouais. Quand, sous quelle forme,
voilà, c'est ça.
C'est pas, mais elle arrive.
Ce qui est intéressant et qu'on a noté à chaque fois qu'on en parle, mais qui est suffisamment inhabituel pour le mentionner, c'est comme aime le rappeler notre ami Thomas qui est dans la chatroom, ils vendent tellement qu'ils n'ont pas intérêt à changer de console. On est convaincus à peu près tous qu'ils ont des designs d'une nouvelle Switch dans les cartons depuis longtemps, mais comme on le disait, l'année 2020 a été tellement météorique au niveau des ventes que je crois que s'ils pouvaient, ils ne sortiraient pas de nouvelle Switch encore cette année. Mais il semble qu'il y ait des questions de chaîne de production du côté de Nvidia qui soient en train de leur dire « Écoutez, votre processeur de 2015, là, ça commence à bien faire. On veut changer nos chaînes de production. » Donc, peut-être qu'ils sont un petit peu la main forcée par d'autres facteurs que le simple facteur marketing de relancer les ventes avec un nouveau modèle comme ils l'ont fait peut-être par le passé. Bref. On verra ce qui se passe dans les semaines à venir, du coup, parce que si elle doit sortir cette année, il va à un moment falloir qu'ils finissent par en parler. Vas-y, dis-moi, Geoffroy.
Non, pardon, ce sera peut-être en réaction à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait eu pas mal justement de spéculations à la sortie des nouvelles générations de consoles. Ils disaient, ah, ça y est, ils vont sortir une Switch Pro parce que face à la PS5 et la Xbox Series, sinon ils vont faire trop pâle figure. En fait, non. Ils n'ont pas eu besoin. Là, maintenant, il commence à y avoir peut-être de la concurrence sur le marché du portable. Alors, ah, ça y est, ils vont devoir sortir la Switch Pro pour concurrencer le Steam Pal et ce qui arrive. Non, ils n'ont pas besoin.
Oui.
Peut-être que c'est le jour où ils se mettront à faire des jeux qui ont besoin de plus de puissance, le Zelda 3, des choses comme ça, où ils se diront, allez.
Tu vois, tous ces arguments sont des arguments logiques et ils sont tous des arguments dont ils ont prouvé, au moins en 2020 et les années précédentes, qu'ils n'étaient en fait pas des arguments parce qu'ils n'en avaient pas besoin pour vendre des palettes de machines.
Non, c'est ça, il finira par y en avoir un, peut-être qu'on n'aura même pas vu venir, et en fait il y aura un argument, c'est peut-être les chaînes de production, c'est peut-être un futur jeu pas annoncé, et là-dessus ils feront la bascule.
Peut-être qu'ils avaient prévu, par exemple, le fameux Zelda Breath of the Wild 2 comme tirant profit de la nouvelle console et qui se sont dit ça va être un bon jeu pour à sortir au moment du lancement de la machine Et du coup, maintenant, il se retrouve un petit peu coincé, je caricature, mais parce qu'il pourrait quand même trouver une solution, mais il se retrouve un peu coincé en se disant, bah oui, on n'a pas besoin de la sortir, mais comme on veut sortir Zelda 2, peut-être qu'il faut qu'on la sorte quand même pour que notre cartouche dorée de Zelda 2 serve à quelque chose, quoi. Bon, on en reparlera quand on aura plus d'infos concrètes. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est le sujet, comme je disais, un petit peu touchy de la catégorie Switch des comment ça s'appelle, hot tubs, pools, hot tubs and beaches. Alors c'est un sujet que j'ai pas évoqué jusqu'à maintenant parce que c'était un petit peu en périphérie du monde du jeu vidéo, mais puisqu'on a des gens qui connaissent bien Twitch ici, je me suis dit qu'on allait en parler. Et puis en plus on a une femme, donc c'est pas mal d'avoir un avis des personnes essentiellement concernées et qui peuvent en parler, parce que nous on est quand même des mecs qui parlons de ces sujets. Mais pour résumer la chose, il y a eu un gain de popularité de streameuses, essentiellement, pas que, mais essentiellement de streameuses qui faisaient des streams depuis des piscines, des jacuzzis, des bains, et qui a relancé en fait un débat qui est un petit peu un débat de fond sur Twitch depuis les débuts de Twitch, sans doute, qui est...
Depuis toujours,
oui, même avant Twitch.
C'est un truc de dingue, moi ça fait 7 ans que je stream, ça fait 7 ans qu'il y a un débat là-dessus.
Ouais. Et donc, il y a le débat de est-ce que les femmes en général qui ont des tenues qui, j'ai envie de dire aguicheuses, c'est peut-être pas juste, mais il y en a qui sont dans des tenues qui sont...
Est-ce qu'on peut dire...
Pardon ?
Affriolante,
d'accord, on va dire ça comme ça. et du coup, qui pousse le curseur un petit peu loin en étant parfois en maillot de bain dans des piscines. Ça a fait débat. Twitch a dit, bon, écoutez, OK, on va régler... Parce que les débats sont des idées un petit peu, comment dire, un petit peu... limite du genre « Oh mon Dieu, la jeunesse va chercher des streams sur Minecraft et tomber sur des femmes en bikini, mon Dieu, corruption des esprits des jeunes. Ouais. » Ce qui est bon, quand même un...
Ce n'est pas le problème d'Internet de base, de manière générale, hein, comme si ça n'existait pas sur tout le net, quoi.
C'est ça. Mais bon, d'un autre côté, le débat est suffisamment monté. Et puis, je crois que je vais me risquer dans une pas une discussion, mais une analyse un petit peu périlleuse, qui est que moi-même, j'ai une question qui se pose quand je me dis, est-ce que... Ah, vous savez quoi, je vais d'abord poser la question à Trinity, et puis je vais exposer mon idée, okay, mon cheminement intellectuel après. En gros, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que femme et streameuse, de cette idée de streamer depuis une piscine et de ce qu'a choisi de faire Twitch, puisque je ne l'ai pas dit, mais qui a choisi de faire Twitch, c'est de créer une catégorie spécifique, comme ça, ça règle le problème. Ceux qui veulent regarder ça, ils y vont. Ceux qui ne veulent pas, bah, ils ont d'autres types de stream. Donc toi, quel est ton avis sur ce...
Moi, c'est ce que je te disais, je suis un petit peu entre deux. C'est-à-dire que forcément, ça fait 7 ans que je stream, j'ai connu la plateforme à la base quand c'était une plateforme qui faisait que du jeu vidéo. Et il y avait déjà des débats comme ça à l'époque, mais qui concernaient des décolletés, etc. Maintenant, c'est clair que je ne suis pas la cible de ce genre de contenu. Mais si Twitch l'autorise, en fait... Ben, en même temps, à un moment, c'est leur plateforme, ils décident. Pour moi, ils ont annoncé quelque chose de clair en faisant cette catégorie. C'est-à-dire que ça faisait des mois là, qu'il y avait cette espèce d'ambiguïté. Tout le monde se prenait la tête avec ses streams, ça n'arrêtait pas. Moi, à chaque live, les gens venaient me poser la question « qu'est-ce que tu en penses ?» J'étais là, mais moi, en fait, je ne regarde pas ce genre de stream. Et du coup, je n'en ai aucun qui apparaît dans mon accueil, etc. parce que je ne les regarde pas. Donc pour moi, c'est comme s'ils n'existaient pas. Alors, je peux comprendre... le fait que les gens qui sont là depuis longtemps, qui aiment le jeu vidéo, ont l'impression que ça part un peu en vrille. Mais il faut savoir qu'en fait, Twitch, il est en train de suivre pour moi l'exemple, entre guillemets, de YouTube. On a voulu ouvrir les catégories. On a rajouté du just chatting, du voyage, de la cuisine, de l'art, etc. Et bien évidemment, avec toutes ces choses-là, arrivent les dérives qui surfent sur des failles. Parce que là, en fait, typiquement, ce qui se passe avec le pool hot tub and beaches, c'est vraiment une faille qui est exploitée. pourquoi c'est autorisé. Tout simplement, Twitch, dans sa législation, pour l'instant, dit que nous avons le droit de nous mettre en maillot uniquement si nous sommes dans une piscine, etc. Donc, et ben, y a des gens qui ont exploité la faille. Ils ont dit, OK, il y a des filles, elles sont arrivées. Elles ont dit, bah, y a une faille, je peux mettre une piscine et je peux me mettre en maillot. Donc, je pense que Twitch s'est un peu retrouvé pris de court. Et il faut quand même être honnête, ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il y a... ça a été très compliqué pour eux, à mon avis, de trancher. Il y avait aussi, ce que je peux comprendre derrière, un peu tous les gens qui appuyaient le fait que, bah, écoutez, les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Si on les a envie de se mettre en maillot, elles se mettent en maillot. Je veux bien. Et de l'autre côté, il y avait, OK, mais on est sur une plateforme de gaming. Ce qui est un peu faux, parce que Twitch s'est ouvert à plein d'autres sujets. Donc moi, je suis un peu teintée de gris. C'est ce que je te disais juste avant le live. C'est que je suis ni blanc ni noir au niveau de ce sujet. Je suis pas la cible. Je comprends complètement que les gens se sentent un peu dérangés parce que à la base, ils sont fans de jeux vidéo et ils voient arriver des trucs un peu moins profonds en termes de contenu. Et en même temps, bah, chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, Twitch a tranché. Donc, Twitch a mis cette catégorie. Ça veut dire qu'ils l'ont accepté. Et qu'au moins, bah, moi, je suis assez contente qu'ils aient fait la catégorie parce qu'il n'y a plus le truc de « c'est dans le just chatting », dans l'endroit où tout le monde parle. Et là, effectivement, tu pouvais vraiment tomber sans le vouloir sur des filles en maillot de bain. Là, au moins, il y a une catégorie spécifique.
Oui. Ok, super. Bah, écoute, je pense que c'est bien résumé. Je vais juste ajouter mon cheminement intellectuel. Et je suis en gros, je suis assez d'accord avec toi et je suis assez... je suis assez clair sur l'idée que également... ça sort de ses proportions un petit peu. Je peux comprendre, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais donc on peut tomber sur ce truc alors qu'on veut autre chose. » Ok, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. À la limite, un enfant de 13 ans va voir une fille en maillot de bain, comme tu le disais, c'est pas la première fois qu'il va voir ça, je pense.
Et surtout, techniquement, ces lives sont censés être marqués plus 18. Donc un enfant de 13 ans qui a vraiment un compte mineur n'est pas censé les voir.
Oui, et puis je crois que sur Internet, c'est pas une raison, mais sur Internet, je pense qu'on voit... Mais même dans la rue, tu vois des pubs pour des yaourts avec des gens dénudés, y compris des femmes. Enfin bref, on est tous d'accord que ça ne va pas traumatiser les adolescents de voir des femmes en maillot de bain. Mais il y avait une réflexion que je me suis fait, mais vraiment un examen de ma propre, compréhension des choses. C'est qu'il y avait, si je suis parfaitement honnête, un petit truc qui me titillait dans l'idée que dans... les streams de jeux vidéo, il y a des femmes qui portent des tenues affriolantes. Et quand je dis affriolantes, c'est même pas genre des maillots de bain, mais des décolletés profonds, des trucs comme ça. Et je me disais, ouais, quand même, c'est pas gênant, elles font ce qu'elles veulent, mais est-ce qu'elles ne tirent pas ? Comment dire ? Je sais que c'est coupable, cette réflexion, mais c'est celle que j'ai un petit peu eue. C'est genre, est-ce qu'elles ne tirent pas un avantage injuste de leur situation, de leur statut de femme en mettant en avant leur décolleté. Tu vois, je sais que c'est...
Je vois complètement ce que tu veux dire, mais en même temps, on peut retourner le problème, parce que ça veut dire qu'en face, il y a une réponse. Tu vois, il y a une réponse qui est masculine. Donc, tu vois, c'est un jeu entre les deux, on va dire.
Mais tu dis, ah, est-ce qu'elles ne sont pas en train d'exploiter ça ? Et du coup, mais d'exploiter ça, d'une part, pourquoi ? C'est pas non plus la fin du monde, mais j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit « Toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que, encore une fois, dans ce genre de cas, je crois qu'il vaut mieux demander l'avis aux personnes concernées. Et elle m'a dit un truc qui m'a marqué, peut-être que tu peux me dire si t'es d'accord ou pas, Trinity, mais elle m'a dit « Tu sais, de mon expérience, généralement, les femmes, quand elles s'habillent, même quand elles s'habillent un petit peu sexy, c'est pas forcément pour les mecs, c'est plus pour elles-mêmes. » Et les mecs ont tendance à penser que... Donc, je ne sais pas, peut-être que ça te parle aussi. Ça m'a frappé un peu. Et l'autre aspect, c'est que... Admettons même qu'elles tirent parti de leur décolleté pour avoir un petit peu plus de vue. Admettons. Ce qu'il faut bien comprendre... Enfin, peut-être que je me trompe, mais la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que moi, qui qu'on soit... on va tirer parti de notre statut, de nos avantages ou peut essayer de retourner nos inconvénients. Et tous les mecs blancs qui sont des Twitchers, peut-être qu'il y en a plus, mais on a aussi un avantage qui est beaucoup plus, dont on ne on se rend même pas compte, c'est que on a un point commun avec une partie de l'audience Twitch, qui est sans doute la majorité, qui sont des mecs blancs, qu'ils soient adolescents ou pas. Et le fait qu'on puisse... Tu vois, il y a cette sorte de familiarité, on est codé pour faire confiance aux gens qui nous ressemblent un petit peu, notre tribu, et ça, c'est un avantage en soi, mine de rien.
Bien
donc,
sûr.
C'est un avantage qui est dont on se rend peut-être pas compte, mais on en tire parti aussi. Et on, enfin bon, bref, je sais pas, c'est pas.
Je comprends, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est très clair. Et oui, bien évidemment, on peut, une femme peut tirer parti de ça. Après, c'est pas une majorité. Moi, je suis un peu partisante de. Mmh. Quand les choses ne m'intéressent pas ou que c'est pas dans mon truc, en fait, je détourne le regard beaucoup, ouais. Tu vois. Et c'est un peu ce qui se passe là par rapport à Twitch, parce que je sens qu'il y a, c'est assez dingue parce que ce sujet, il y a quand même une animosité ambiante. Mmh. Tu l'as peut-être pas vu, mais moi, en étant vraiment dans le milieu de Twitch. Sur Twitter, ça balance H24 sur les filles. Bon, là, on parle des maillots de bain, mais ça balance H24 ouais. Là-dessus. Et de l'autre côté, t'as des filles hyper énervées qui répondent hyper violemment. Enfin, c'est hyper tendu comme climat, alors qu'en fait, moi, personnellement, elles font un peu ce qu'elles ouais. veulent. À partir du moment où elles ne m'attaquent pas, moi, dans mon intégrité, et qu'elles attaquent personne d'autre dans leur intégrité, je vois pas où est le problème, en fait. Ouais. Tu vois certes, ouais. oui. Twitch, Twitch c'était une plateforme de gaming, mais en même temps le fait que ça soit une plateforme qui soit ouverte à d'autres choses, et ceci en fait partie, ça fait aussi qu'à l'heure actuelle, nous en tant que streamers, on a plus de viewers, on a, vous avez pu découvrir plus de streamers aussi, qu'on est mieux payés, etc. parce que ça s'est ouvert à plein d'autres choses aussi. Mmh. Donc il y a toujours un peu de blanc et un peu de noir dans chaque situation, je pense.
Ouais. Écoute, je pense que effectivement, elles font un peu ce qu'elles veulent. C'est pas rien de tout ça n'est dramatique. Et je crois que bon, on l'a pas dit explicitement, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de discussions sur les sujets, mais il y a aussi beaucoup de sexisme dans l'affaire, au-delà même des questions qu'on pourrait éventuellement légitimement se poser. On peut pas conclure le sujet, je crois, sans dire clairement qu'il y a dans cette dans ces débats houleux beaucoup de sexisme aussi, et que bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, quoi.
Oui, c'est toujours, on conclura sur c'est souvent effectivement beaucoup d'hommes qui parlent de tout ça, alors que ce sont les premiers à les regarder, mais sur d'autres sites qui ne sont pas Twitch, en fait, tu vois. Mmh. Mais juste parce que là c'est sur Twitch, ah, tu vois, il faut un petit peu déverser son sel dans ouais. tous les sens. C'est un peu compliqué, ouais.
Et puis soyons clairs, le plus de nudité qu'on va voir, ça va être généralement, à moins que ça soit des trucs artistiques clairement marqués, le plus de nudité qu'on va voir, c'est des maillots de bain. Donc,
oui.
Voilà.
Oui, oui, c'est ça.
Bon, puisqu'on parle de Twitch, merci de cette discussion, Trinity. Y a un autre sujet qui est connexe à Twitch que j'ai trouvé hyper intéressant, que je voulais évoquer, en particulier avec Geoffroy, puisqu'on a, on t'a avec nous aujourd'hui, et comme je le disais, tu es assez familier du milieu de l'e-sport. C'est un article de Cecilia D'Anastasio pour Wired, où elle parle de la difficulté des e-sportifs à vivre décemment et avoir une certaine sécurité de l'emploi, et du fait que de plus en plus d'entre eux se tournent vers Twitch et vers le streaming pour vivre plutôt que de poursuivre une carrière dans l'e-sport. J'ai trouvé cet article particulièrement intéressant parce qu'on l'a vu, peut-être que dans l'Overwatch League, c'est plus présent qu'ailleurs, mais certainement dans l'Overwatch League, il y a eu, c'est une ligue que je suis plus que les autres, donc je l'ai constaté à plusieurs reprises, des e-sportifs qui, à cause des changements de... C'est pas que... d'une équipe qui va soit les prendre, soit les garder, mais ou les renvoyer, ou ce genre de choses. Il y a aussi des changements plus ou moins annoncés ou concertés avec la communauté. Que fait le développeur au jeu qui va influencer directement les capacités et le métier des e-sportifs? En plus de ça, les changements de format des tournois, l'incertitude sur l'avenir de ces ligues, etc., etc. Au final, il y en a plein qui se tournent vers Twitch et qui choisissent, plutôt que de poursuivre une carrière d'e-sportif, cette carrière de, je ne sais pas si on peut dire entertainer, qui est plus vraiment le même métier. Je me demande si c'est un truc que tu as constaté, toi, Geoffroy, et ce que tu en penses au final. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais ce que tu en penses?
On ne peut pas vraiment juger. La question, c'est finalement, si on compare les e-sportifs à de véritables athlètes, ce qu'ils sont, quand on voit les rythmes, l'entraînement, que ce soit la motivation ou la force mentale qu'il faut pour participer. Dans le sport, on a souvent ce principe de reconversion. Quand t'es trop vieux pour faire ton sport, en général, les gens, ils restent dans le milieu en devenant coach, en devenant présentateur, commentateur. Ils restent dans le milieu. Dans l'e-sport, tout se fait plus vite. En fait, tout va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que c'est arrivé, ça a explosé, ça a rassemblé des millions de gens. Et on voit du coup cette évolution très rapide où on avait des vétérans de l'e-sport qui avaient pris leur retraite, qui sont revenus ou qui sont restés faire du contenu. On pense par exemple à Shroud, qui a arrêté sa carrière très tôt, entre guillemets, par rapport à d'autres joueurs. Il était vraiment au meilleur de sa forme quand il a arrêté pour se reconvertir sur Twitch et sur YouTube. Et c'est en train de devenir effectivement de plus en plus présent, comme tu disais, parce que quand il s'agit de créer du contenu, la concurrence est quand même moins rude, les rythmes de vie, ça permet d'avoir une vie à côté. Faut pas perdre de vue, voilà, ce sont des athlètes qui s'entraînent 10 à 12 heures par jour, qui doivent voyager, alors peut-être moins depuis un an, mais qui font des compétitions très régulièrement, et les revenus dans les très grosses équipes, sont très corrects a priori, mais sont quand même très liés au cash prize et au marketing, à la marketabilité de l'équipe et des joueurs, mais à l'exception de ces quelques centaines de joueurs qui sont vraiment au sommet, c'est très difficile de vivre de l'e-sport, surtout en tant que joueur.
Je me souviens que dans l'Overwatch League spécifiquement, Blizzard avait dit que pour leurs équipes, pour pouvoir acheter une licence, il fallait garantir un revenu minimum à tous les athlètes qui était de l'ordre du SMIC. Et c'était considéré comme c'est quand même une avancée parce qu'au moins les athlètes auront un salaire minimum, tu vois. Et il y en a plusieurs dizaines et c'est vraiment difficile. Et du coup, c'est vrai qu'ils peuvent avoir une vie plus facile et plus de revenus en devenant. Enfin, est-ce que en fait ils se font pas une certaine notoriété en tant qu'athlète et puis ils transforment cette notoriété en allant sur Twitch? En gros, ce que j'essaye de demander, c'est est-ce qu'ils pourraient court-circuiter l'aspect e-sport et aller directement sur Twitch? Non, ça ne marcherait pas aussi bien, quoi.
Bien sûr que si. C'est les moyens de se faire connaître en tant que créateur de contenu. Il y a plein de chemins différents. Trinity, je pense, n'a jamais remporté d'international sur Dota 2 et pourtant, ça marche bien.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire.
Moi, j'ai fait de l'e-sport à l'époque où l'e-sport, ça pique.
C'est vrai, t'as fait de l'e-sport, voilà, ça même ça.
Ouais, moi, j'ai fait de l'e-sport sur Battlefield dans les années 2011, 2012 et 2013 avec l'équipe Mythix qui a été ensuite sacrée champion de France Battlefield. Il y avait 10 spectateurs.
Mythix, Trinity. Hein.
Mais oui, exactement.
Tout
s'explique. Ouais, je faisais e-sport à l'époque. Mais alors, Battlefield, ça n'a jamais été un jeu avec une très grosse scène e-sport. Mais alors, à l'époque, on a joué une Coupe de France à l'étage d'un magasin LDLC et il y avait 10 personnes qui nous regardaient, quoi. C'était vraiment à la route, hein, et on a gagné une souris, hein, tu vois.
Voilà.
D'accord, donc, tu vois, je me rendais même pas compte, j'aurais dû te poser la question, mais toi, t'as pas reconverti ta notoriété d'e-sportive en Twitch, tu t'es lancé en fait un petit peu dans une autre carrière sur Twitch après.
Ouais. De toute façon, ma notoriété d'e-sportive, elle était assez limitée à cette époque-là parce que c'est Mythix, c'était une grosse équipe qui était connue sur console, etc. Mais c'était pas assez gros pour que je puisse avoir une vraie notoriété au grand public. J'avais ma notoriété dans l'e-sport, mais pas auprès d'un public énorme. Donc je suis juste partie en fait, j'ai fait autre chose, quoi.
Je comprends, ouais.
Je pense qu'il y a un spectre en fait que les gens recherchent, c'est-à-dire que d'un côté il y a les joueurs qui sont très forts dans leur jeu, qui vont être suivis parce qu'ils produisent de la performance régulièrement, ouais. Et il y a les entertainers, ceux qui sont là pour amuser la galerie, pour animer, etc. Et évidemment, n'importe quel streamer se situe quelque part entre ces deux choses-là, oui, avec un axe plus sur la performance. On va penser à typiquement peut-être d'anciens joueurs pro. Ou un axe plus amusement, où là, clairement, tu vas pas aller le regarder pour trouver le dernier type de speedrunning sur Mario 64. Non, non, le but, c'est de rigoler et c'est de faire, de passer un bon moment. Donc, un joueur pro qui est arrivé à un niveau où il est connu, quel que soit son niveau de notoriété, c'est que déjà le mec est capable de produire un niveau de performance qui dépasse 99% du reste des joueurs de la planète. Donc déjà, effectivement, on se dit, il a déjà ça pour lui. Mais s'il a que ça pour lui, ça suffira pas. Il y a trop de concurrence et les gens, quand ils veulent voir de la performance, bah, ils vont voir des tournois pro. Donc suivre un streamer en particulier, que ce soit un joueur pro ou pas, il faut que la personne propose non seulement du beau jeu, mais qui soit aussi voilà, intéressant à suivre, que ce soit parce qu'il propose des conseils. On a eu ça beaucoup à une époque, quand ça a explosé avec League of Legends, où on avait sur un jeu vraiment toute cette gamme de joueurs, avec des joueurs pro qui streamaient leurs entraînements, où on pense, bah, même en fait c'est ça, c'est que même les équipes ont commencé à proposer ça, c'est-à-dire que maintenant on a des équipes comme SKT T1 en Corée, dont les joueurs streament leurs entraînements. Donc les joueurs sont des joueurs pros, on pense à Faker qui est évidemment le meilleur joueur du monde, le plus connu, et qui s'est mis à streamer. Et alors est-ce que c'était une volonté de sa part, est-ce que c'était son équipe, un mélange des deux? Et en fait c'était vraiment voilà, il streamait, il parlait quasiment pas, le chat était composé à 90% de joueurs qui ne comprennent pas le coréen de toute façon, donc en fait clairement ils sont là pour le niveau de jeu, mais ça se passait dans le cadre de son équipe pro, il était toujours membre de son équipe. Donc même les équipes s'y mettent, c'est pas seulement une volonté de joueur, je pense, c'est que même d'un point de vue des sponsors, des revenus, comme vous disiez, un revenu de sponsor, c'est calculé sur la base de la marketabilité de l'équipe. C'est est-ce que l'équipe elle est connue, est-ce que les joueurs sont connus, est-ce qu'il y a du storytelling.
Bien sûr.
C'est évidemment lié aux résultats, mais c'est aussi lié aux personnalités. Donc c'est un moyen de, enfin c'est une source de revenus supplémentaire qui vient vraiment compléter, parce que les cash prizes, encore une fois, on pense à des internationaux qui brassent des dizaines de millions de dollars. Oui, très bien, il y en a un par an et il y a 15 joueurs qui vont gagner de quoi vivre grâce à ce tournoi-là.
Et la plupart, tu te bats pour gagner une souris, comme disait Trinity. Bon, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui.
Mais... c'est un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça en tout cas.
C'est vrai, oui. Mais c'est vrai que, c'est, comme tu le disais, il y en a quelques dizaines, quelques centaines qui réussissent à en vivre et peut-être bien, mais il y en a beaucoup aussi qui ne réussissent pas. Et j'avais trouvé intéressant l'idée qu'ils se disent, bon, ben, fuck tout ça, moi, je vais me mettre sur Twitch et ça va être plus simple. Et peut-être, effectivement, quand tu fais partie de ce spectre des Twitchers qui sont là pour la performance, évidemment tu peux y arriver sans être passé par une équipe d'e-sport, enfin par une équipe de ligue, mais si tu l'as fait, tu as déjà une certaine notoriété. Et peut-être que c'est un moment maintenant où tu peux et que ça sera bouché ensuite et qu'il y aura trop de monde, mais bon, c'est intéressant de voir que certains quittent leurs équipes pour devenir Twitchers.
Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple si on rapproche même de la Formule 1, s'il y en a qui connaissent un peu, c'est-à-dire qu'un joueur, quelqu'un qui va streamer, qui va se faire une grosse communauté, qui va être réputé, qui aura son petit niveau de jeu, peut à l'inverse se faire recruter par une équipe, parce que justement il apporte avec lui cette marketabilité, cette amabilité.
Oui, mais il reste
qui
pas,
fait que
l'impression.
Les gens vont le suivre.
Il reste pas dans les. Il reste un an, deux ans, et puis ils finissent par retourner. Enfin, ce que j'ai vu, moi, de ceux que j'ai suivis, généralement, ils restent deux ans, et puis ils reviennent vers le stream, parce que, comme tu le disais, c'est tellement éreintant et incertain. Bon, peut-être qu'il y a des contre-exemples aussi, mais.
J'avoue, je n'en ai pas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, vraiment, de rejoindre une équipe. Maintenant, il y a les joueurs pros, il y a les joueurs pros qui streament, il y a les streamers purs qui ne font que de la communauté. En fait, ils sont là pour plaire aux gens, pour faire marcher la marque, en fait, pour faire connaître la marque d'une équipe. Pas oublier qu'une équipe d'e-sport, c'est une marque hein, avant tout, qui a des sponsors et qui doit évidemment générer des revenus pour payer les employés, les joueurs et compagnie.
Oui, donc c'est un élément marketing de la stratégie de l'équipe.
C'est ça, et je pense qu'en fait, dans l'ensemble de l'e-sport, on cherche encore ces business models, on cherche encore à savoir comment est-ce qu'on va générer du revenu. Et que ce soit les équipes, même les studios, les éditeurs. C'est-à-dire qu'un circuit e-sport pour un jeu comme League of Legends sur Riot, ok, très bien, ça fait 10 ans que ça marche, c'est évident qu'ils vont continuer à le faire, mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi ils le font? C'est quoi, eux, leur intérêt? Évidemment, c'est de faire en sorte que LoL soit toujours un jeu qui fasse parler de lui, qu'il y ait toujours bien des nouveaux joueurs, que les joueurs restent, qu'ils dépensent de l'argent. Donc un nouveau jeu qui va sortir, ils vont vouloir lancer leur programme e-sport, c'est du marketing. Nous voilons pas la face, c'est du marketing, et évidemment, il faut un retour sur investissement. Donc il faut attirer des équipes, il faut attirer des joueurs. Et pour l'instant, je pense que voilà, on voit justement ça change très, enfin pas très souvent, mais on va dire que le paradigme évolue très rapidement parce que justement ils essaient des choses. Il y a Overwatch, il y a Riot, ils tentent la franchise et ils se donnent quelques années pour voir le résultat. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? C'est mais encore c'est un ça peu tôt est... pour le dire.
Ouais. C'est ça qui est difficile, parce qu'ils peuvent changer du jour au lendemain et les vies des athlètes sont dans la balance, quoi. Mais bon, bref. C'était un sujet intéressant à évoquer. Merci de la discussion. On va continuer avec plus de news, mais avant, j'aimerais tout de même vous parler un tout petit instant de Patreon et du moyen de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Vous pouvez décider de soutenir financièrement le rendez-vous jeu parce que vous l'aimez bien, parce que vous passez un bon moment en notre compagnie, parce que vous appréciez les discussions, les résumés d'informations, vous apprenez des choses, vous trouvez des analyses intéressantes et vous vous dites, bah, écoutez, c'est sympa, moi je mettrais bien une petite pièce comme dans une machine d'arcade à l'époque, pour ceux qui l'ont connu. Allez, un petit euro, ça fait pas de mal et ça fait du bien. Et vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous pouvez là décider de mettre ce petit euro dans la fente et de soutenir l'émission, de financer l'émission. Et en plus de ça, vous aurez des bonus multiples et variés, des émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu. Vous aurez des éditos, des accès à différentes choses. En gros, c'est un moyen de vous faire plaisir en faisant, alors je ne vais pas dire une bonne action parce qu'on n'est pas en train de sauver le monde non plus, mais en aidant à la production de contenu que vous appréciez. Donc patreon.com/rdvjeux pour soutenir le rendez-vous jeu. Je vous remercie infiniment de faire un petit tour sur ce site et de voir ce que ça peut vous apporter, en plus de la fierté immense de soutenir l'émission.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, sujet suivant, moi j'ai pas, j'aime bien qu'on parle de nos jeux du moment régulièrement, mais là moi j'ai pas trop de jeux du moment, vous savez pourquoi, je suis un petit peu occupé. Je sais pas si c'est votre cas, vous avez des jeux auxquels vous jouez en ce moment qui sont intéressants, ou sinon on continue avec les news. Dites-moi, Trinity, t'as un jeu que tu voudrais évoquer ou pas du tout ?
Alors, oui, moi j'ai fait pas mal de jeux là ces derniers temps, je me suis lancé le défi de terminer mes jeux, ce que je fais, depuis plus de 2 mois, donc c'est merveilleux. Là, j'ai joué et terminé il y a peu de temps Subnautica Below Zero, qui est un jeu de survie-exploration qui se passe dans les fonds marins. C'est terrifiant si vous êtes thalassophobe comme moi, c'est un pur jeu d'horreur. Mais excellent jeu, excellente histoire. C'est tout simplement le jeu qui fait suite au Subnautica premier du nom, hein, qui est un jeu indé qui avait extrêmement bien marché. Et là, le 2 a été bien amélioré, ça rame moins, c'est joli, c'est très agréable à jouer. Et si vous aimez le craft et la survie, c'est fait pour vous. Et je suis aussi en train de me refaire Medieval, là, en ce moment, le remake.
D'accord, voilà. Oui, j'allais dire, c'est rétro, d'accord, Medieval, très bien.
Ouais. Le petit remake là, qui était sorti il y a 1 an et demi, franchement, il fait plaisir.
J'ai jamais joué à Medieval, ça m'a jamais attiré, mais clairement, il y a des gens, il y a des clients.
Oui, il y a des clients, ouais.
Subnautica Below Zero, j'avais été trop terrifié par le premier déjà, donc je ne me suis pas lancé dans Below Zero, mais clairement, c'est un jeu qui a sa fanbase, qui est particulièrement apprécié. Geoffroy, est-ce qu'il y a un jeu dont tu voudrais parler ?
Je suis également en train de faire Below Zero, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis en train, et je tiens à préciser, il n'y a pas besoin d'être thalassophobe pour faire dans son pantalon, hein, effectivement, dans ces jeux-là. Il est effectivement beaucoup mieux optimisé, toujours très beau, avec des environnements et un bestiaire renouvelé qui font qu'on on prend vraiment du plaisir à y retourner, même si on retrouve vite ses marques, et que je trouve le scénario un peu moins inspiré que l'original. Donc si on n'en a fait aucun des deux, je pense que le premier reste quand même le meilleur choix. Mais pour ceux qui ont aimé le premier, voilà, on repart dans une nouvelle aventure, donc c'est vraiment du plaisir.
C'est les mêmes mécaniques d'exploration, on refait exactement un petit peu la même chose, ou il y a suffisamment de nouveautés dans l'arbre d'exploration pour que ça soit remotivant, ou c'est juste plus de la même chose?
Pas de bêtises, non. Je crois que c'est un DLC qui est parti en cacahuète et qui en fait est devenu un jeu à part entière en fait.
Ah, j'avais l'impression que c'était un DLC, à l'époque, et d'accord.
On m'a dit voilà. C'est une idée de DLC, mais ils l'ont tellement développé que ça a fait un jeu à part entière, quoi.
D'accord.
Il y a eu au milieu du développement, au milieu de l'Early Access, il y a eu un véritable virage à 180 degrés où ils ont changé l'équipe de narration, de scénario. Donc il y a vraiment une histoire. C'est la même planète, c'est le même univers, mais c'est une toute nouvelle histoire qui n'a que quelques petits clins d'œil au premier. Mais non, ils ont réussi à faire quand même quelque chose de très intéressant, très sympa pour un et demi, on va dire. C'est pas vraiment un Subnautica 2.
Ouais,
mais encore une fois, si on a aimé le premier, c'est les yeux fermés. Il y a vraiment de quoi faire.
Mais si on n'a pas fait le premier, tu recommandes de faire le premier d'abord quand même?
Oui, d'une part parce que je trouve qu'il est plus inspiré et il pose des bases qui ne sont pas réexpliquées dans celui-ci.
D'accord.
En fait, pas en termes de gameplay, on peut très facilement jouer, mais en termes de scénario, comme je dis, il y a des clins d'œil, il y a des petits éléments qui prennent vraiment du sens si on a fait le premier.
Super. Eh bien, écoutez, c'est la fête à Subnautica. Je suis donc le seul qui n'y aura pas joué dans cette émission. On en parle à peu près toutes les semaines.
Sinon, moi, j'ai fini Cyberpunk il n'y a pas longtemps, puisque j'attendais d'avoir ma RTX et que j'ai eu du mal à aller au bout parce que ça a été une grosse déception.
Et tu l'as quand même fini.
Je l'ai quand même fini parce que je voulais voir la fin de l'histoire. Parce qu'en fait, je l'ai abordé comme un RPG. J'ai voulu le voir jusqu'au bout comme un RPG, ce qu'il n'est pas. Donc j'ai voulu voir une fin. J'ai vu deux fins qui sont très proches l'une de l'autre, qui sont juste un embranchement à 30 minutes de la fin. Et bah, jusqu'au bout, j'ai pas été emballé. Donc malheureusement, je pense qu'il va dormir un gros, gros moment dans ma bibliothèque. Je sais pas si je le reprendrai un jour. Pour voir éventuellement après des patchs ou après peut-être un DLC de contenu ou quelque chose comme ça pour avoir un peu de la nouveauté. Mais je dirais que si on a envie de faire du cyberpunk, il vaut mieux prendre sur soi, plisser un peu les yeux et retourner faire le Deus Ex original qui est quand même beaucoup plus sympa d'un point de vue RPG, qui était ce que je recherchais.
C'est marrant, jusqu'au bout, parce que maintenant ça fait quelques mois, je crois qu'on peut dire qu'on arrive au bout des avis sur le jeu, jusqu'au bout, en dehors même des questions des bugs, parce que là c'est plus de ça qu'on parle, il y aura eu des avis extrêmement divisés sur Cyberpunk, avec des gens qui l'aiment beaucoup et d'autres qui sont hyper déçus, donc bon.
Ouais, c'est drôle, parce que moi tu vois, mon conjoint vient de le finir, il a tout fait. Toutes les quêtes annexes, tout. Il l'a fait à 100% et lui, il a kiffé. Il m'a dit, bah, tu vois, j'ai bien aimé quoi, par rapport à tout ce qui a été dit dessus. Il a bien aimé l'histoire, il a tout kiffé.
Ouais.
Tu vois, donc comme quoi les avis sont vraiment divisés.
Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu en attends et de l'état d'esprit que tu as quand tu commences à y jouer et quand tu y joues. C'est-à-dire que si tu le prends comme un GTA dans un nouvel univers, c'est un régal.
Ouais. Ouais.
Moi, encore une fois, on m'avait vendu du RPG, j'avais pas suivi les dernières news, j'ai pas regardé les tests, parce que justement, j'avais commandé une RTX en fin d'année dernière, j'ai eu 12 000 péripéties, ce qui fait que j'ai dû attendre.
Donc tu l'as eu 6 mois plus tard, ouais.
Et 4, mais du coup, j'avais tout bloqué. J'avais fait hermétique, je ne veux rien voir du jeu, je veux rien lire. J'avais arrêté de lire les tests du moment où il était sorti, et j'y suis allé, bon, pas les yeux fermés, mais presque. Et des illusions, quand même. C'est-à-dire que ça part très très bien. Et en fait, de fil en aiguille, je sais pas si c'est ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu l'énergie, l'argent pour garder ce niveau de qualité, on va dire, des deux premières heures sur tout le jeu. Mais vraiment, c'est bon. Alors oui, si le plaisir c'est d'explorer, d'aller tuer des gens aux quatre coins de la ville, ça, il y a largement de quoi faire. Et la ville est quand même très sympa. Faut reconnaître que les personnages et les environnements donnent envie et sont très très agréables. Mais alors le scénario et les pseudo choix et embranchements et l'enchaînement des actions, J'ai vraiment pas trouvé ça digne d'un jeu qui se revendique RPG, quoi.
Bon. Écoute, un jeton de plus dans cette catégorie de l'analyse du jeu. Bon, on va continuer avec quelques news qui nous sont tombées dessus ces derniers jours. D'abord, quand on va parler de Sony, oui, il va y avoir un stream sur Horizon Forbidden West ce soir. Donc, quand vous écouterez cet épisode, a priori, vous saurez déjà ce qui s'est passé. Et j'imagine qu'on va avoir la date, en plus de détails sur le jeu, dont on ne sait, à vrai dire, vraiment pas grand-chose. Est-ce que on peut se risquer à prédire une date, ou si jamais on va avoir une date pour Horizon Forbidden West, qui est quand même peut-être le gros jeu de l'année pour Sony. Est-ce que vous vous risqueriez... C'était censé être été 2021. Est-ce que vous risqueriez à prédire une date commençons avec Geoffroy, ou tu veux pas te mouiller?
J'ai pas peur. Après, la date, ça dépend en réaliste ou ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment...
Non, réaliste, ce qu'ils vont annoncer. À ton avis, ce qu'ils vont annoncer?
Pour les fêtes de fin d'année.
D'accord, donc tu penses qu'ils décalent?
Début décembre, je pense.
Trinity? Ouais, fêtes de fin d'année.
Soit la rentrée, soit fêtes de fin d'année, quoi.
Alors, moi, je dirais aussi, je pense pas que ça va sortir cet été, mais la grande question, ça va être, est-ce qu'ils le sortent cette année? C'est à peu près sûr cette année, mais du coup, est-ce qu'ils vont décaler God of War? Et c'est vrai que la raison, quand on parle, il faut toujours parler de marketing, la raison de sortir ces jeux, c'est de vendre des consoles, et en ce moment, ils en vendent tellement, ils sont comme dans la même situation que Nintendo, ils n'ont pas besoin de sortir les grosses cartouches pour vendre des jeux, enfin, une suffit, pour vendre des consoles, pardon, donc une suffit, donc je pense que God of War va passer à l'année prochaine, parce que de toute façon, tout le monde achète des PS5, donc...
C'est encore pire, c'est qu'ils en vendent plus que ce qu'ils en ont. Ils ont encore des problèmes d'approvisionnement, donc oui.
Exactement. Il y a aussi eu une réunion des investisseurs, c'est ça, de Sony, qui a annoncé plusieurs choses. Alors d'une part, le fait que Uncharted 4 sera le prochain jeu à sortir sur PC, et c'est un gros morceau. Alors c'est pas The Last of Us ou God of War justement, qui sont les grosses cartouches de Sony, donc on sait pas s'ils vont sortir celle-là, mais Uncharted 4, c'est quand même une série très connue et très populaire, donc elle va arriver sur PC, on ne sait pas quand exactement. Il y a différentes autres informations, comme le fait qu'ils vont a priori plus s'investir dans le cloud streaming. On attend une annonce pour un moment, on ne sait pas quand, mais peut-être quelque chose de lié à un possible équivalent du Game Pass de Sony. On verra s'ils disent quelque chose qui va dans ce sens, c'est encore de la spéculation, mais ils disent qu'ils s'investissent dans le cloud streaming. Ils ont déjà le PlayStation Now, évidemment. Mais une autre info qui m'a paru intéressante, c'est qu'ils ont noté dans la démographie de leurs joueurs le fait que 41% des joueurs PlayStation 4, PlayStation 5 sont des joueuses, ce qui est particulièrement intéressant. Alors, ils étaient à 18% à l'époque de la PlayStation 1, ce qui est déjà peut-être plus que ce qu'on imagine parfois en tant que joueur, quand on imagine la part de joueuses dans la population des joueurs, justement. Mais ce qui est particulièrement intéressant à mon sens, c'est qu'on parle souvent du fait que oui, il y a autant de joueurs que de joueuses, et souvent... Enfin, autant de joueuses que de joueurs, ou parfois même on dit qu'il y a un peu plus de joueuses que de joueurs dans la population mondiale. Et souvent, ce qu'on imagine, c'est oui, ok, c'est le cas si on inclut les jeux mobiles. Et on sait que les jeux mobiles ont toujours un statut particulier dans la communauté des joueurs. Et là, ça montre que 41%, bon, on n'est pas à la parité, mais on n'en est vraiment pas loin. Et je pense que la plupart des gens, si on avait demandé aujourd'hui, comme ça, à froid, combien vous pensez qu'il y a de joueuses, quel est le pourcentage de joueuses sur PS4, PS5, je pense que la plupart des gens auraient dit un chiffre bien inférieur à 41%. Moi, en tout cas, j'aurais dit, je ne sais pas, peut-être 10-15%. Et en réalité, même sur PS1, c'était déjà plus. Donc voilà, j'ai trouvé ce chiffre intéressant, 41%. Bon, on n'est pas à la parité, mais on n'en est pas si loin, finalement. Et là, l'augmentation est substantielle. Oui, pardon, Trinity.
Non, je disais, c'est vrai, mais ça, moi, ça ne m'étonne pas, parce que même en tant que streameuse, sur 7 ans, donc c'est presque une décennie, j'ai pu voir aussi l'évolution par rapport à ma communauté, moi, qui était extrêmement masculine au début, et qui a de plus en plus évolué vers une communauté qui est... On n'est pas à la parité non plus, mais je pense que j'ai bien... je dois bien avoir 30% de femmes, voire 35% sur mon live. Et encore, certaines ne parlent pas, donc on ne le sait pas forcément. Donc, ce chiffre ne me choque pas du tout.
Oui. Voilà, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si on peut imputer ça à des questions de toutes les conversations qu'on a eues cette dernière décennie sur la question de l'inclusivité et de la représentativité. Espérons que ça a aidé, ou peut-être même que ça serait encore meilleur que ça n'ait pas été nécessaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, la tendance est claire et c'est une bonne chose, je crois. Et à côté de ça, Microsoft a annoncé leur conférence de l'E3 qui aura lieu le 13 juin, donc on n'est pas si loin que ça, déjà on est dans 2 semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit ça sera la conférence Xbox et Bethesda. Alors évidemment, Bethesda c'est un énorme morceau de leur studio maintenant, mais du coup Bethesda, tu ne peux pas vraiment les mettre en avant de cette manière si tu ne présentes pas au minimum Starfield, qui est leur prochain gros jeu, et qui est un petit peu... Alors, on a des rumeurs selon lesquelles ils ne sortiraient pas avant 2022, ça ne me paraît pas impossible que ça soit le cas. Mais évidemment, on va avoir une bonne partie de la conférence sur Halo Infinite qui va sortir cette fin d'année, à moins qu'il soit encore repoussé. Mais au-delà des autres jeux qui pourraient être intéressants, comme Everwild ou Avowed, le jeu d'Obsidian qui ressemble un peu à Skyrim, plus ou moins... on a Starfield, peut-être The Elder Scrolls 6, mais donc là, les choses sérieuses commencent, quoi. J'imagine que Starfield, on en verra au moins un petit peu. Microsoft n'a pas sorti 7,5 milliards de dollars juste pour mettre un nom sur un titre de conférence. Je pense qu'ils vont montrer des jeux. Là encore, prédiction, on voit Starfield ou pas? Qu'est-ce que vous pensez?
Oh, je pense, moi. Ouais. Oui. Oui, un petit bout, quelque chose, même si c'est une micro-cinématique, juste pour donner l'eau à la bouche, mais oui, parce que c'était trop peu la dernière fois.
Ouais,
ils sont obligés. Ouais, on peut pas. Enfin, ils sont obligés. Non, ils ont aucune obligation envers moi, Trinity, mais bon, moi, je leur demande un petit peu plus.
Oui, je crois qu'on est tous dans cette situation, oui. On en veut un petit peu plus. Et je crois qu'il faut, à un moment,
il faudrait, et puis surtout là, avec les rumeurs de release date, ils pourraient sortir un Q3, Q4 2022, enfin faire une annonce un peu, donner une fourchette.
Ouais.
Et pour Elder Scrolls 6, on avait eu quoi? On avait eu une mini cinématique de 5 secondes avec des montagnes, ils nous font pareil avec une ville.
Ouais, peut-être. Ouais.
Ils nous montrent un bout de l'univers qui va faire spéculer les fans d'Elder Scrolls pour savoir dans lequel des royaumes ça va se passer.
Tu sais que Elder Scrolls, je parlerai même pas dessus, sur quelque chose dessus.
Ouais.
Moi, je pense
non, c'est de l'optimisme à ce niveau-là.
Ouais, je pense. À mon avis, on va rien avoir, clairement.
Mais côté Xbox, c'est Fable. J'aimerais bien qu'on en ait un peu plus.
Ils ont
petites cinématiques.
Fable, ça me paraît. Je suis pas sûr, mais peut-être. Mais oui, Starfield, je crois que à un moment, ils vont montrer quelque chose. Parce que là aussi, on n'a rien vu du jeu. Hein. On sait rien de Starfield. On sait juste que c'est un jeu Bethesda dans l'espace qui, a priori, utilise leur même vieux moteur pourri. Donc, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils continuent à faire planer le suspense et le mystère. Quoi d'autre? Amazon a annoncé acquérir MGM Studios. Ça leur coûte 8,5 milliards de dollars. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça a à voir avec les jeux vidéo? Ben oui, parce que MGM Studios, c'est aussi les droits de... Je me trompe pas? Est-ce que je dis une bêtise? Eh non, je dis une bêtise. Ben, j'ai rien dit. Je pensais à Warner Brothers. Donc, mais est-ce que c'est Warner Brothers ou pas?
Alors là, je peux pas t'aider.
Je ne sais plus. Je crois qu'ils ont les droits de Warner Brothers aussi. Hein. Enfin, MGM tient Warner Brothers. Et donc, il y a la question de WB Games. Donc bon, en tout cas, c'est du côté de chez Amazon, mais on n'a pas de nouvelles de WB directement. Non, c'est une autre histoire, Kassim. OK. Faites comme si j'avais rien dit. Le manque de sommeil se fait sentir. MGM, c'est pas du tout Warner Brothers. Merci, Kassim. On va couper ça au montage, évidemment. Non, je déconne. Des choses plus intéressantes à évoquer. 3 jeux dont je voulais parler, et puis on va finir avec des rumeurs, des news et rumeurs très rapides après ça. 3 jeux qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est Phantom Abyss, un jeu qui est édité par Devolver, si je ne m'abuse, qui est un concept vraiment intriguant. C'est, on va dire, du parcours d'exploration de temples perdus, un petit peu à la Indiana Jones, où chaque temple est généré aléatoirement et on a une chance d'arriver au bout, mais on a parmi les pièges, genre des gros marteaux qui font le pendule, vous savez, des flèches, des lances qui sortent du sol, ce genre de choses, et ben on va voir les, entre guillemets, fantômes de tous ceux qui sont passés avant nous dans ce temple-là, et donc ça va pouvoir nous aider à imaginer ce qu'il faut faire pour éviter tous les pièges et essayer d'arriver au bout. Et une fois qu'on arrive au bout, le temple est fermé. Donc, on a une infinité de temples qui sont générés aléatoirement, mais pour les explorer, on n'a qu'une seule chance, en fait. Si j'ai bien compris, hein, ce n'est pas 100% clair, si on rate l'exploration de ce temple-là, ben on ne peut plus le refaire. Peut-être que je me trompe sur ce point. Mais c'est un concept qui est vraiment intéressant, intriguant. Et on a aussi un fouet avec lequel on peut s'accrocher pour s'aider pour traverser les environnements, etc. Je trouve ça intriguant comme,
comme concept. Ça change. C'est vrai que c'est un concept qu'on ne voit pas trop souvent, quoi. Donc, tu sais, alors moi, c'est pas le genre de truc où je passerai 5 heures, clairement. Mais tu vois, passer une petite heure de temps en temps là, pour essayer de faire mon temple, ça me paierait bien.
Exactement, ouais. Je pense que ça peut être sympa. C'est peut-être difficile, c'est peut-être un jeu très difficile, mais peut-être qu'il y aura des difficultés de temple. Bref, c'est un jeu marrant, qui a l'air marrant. C'est Phantom Abyss et il arrive en Early Access dès le mois de juin. Un autre jeu dont je voulais parler, c'est Moon Samurai, qui est... C'est presque un jeu qui a trop de poncifs des genres de ce genre de jeu. C'est du pixel art, super bien animé, entre plateforme et combat. Mais il y a une esthétique qui est tellement sympa que ça m'a quand même parlé. On n'a pas de date, mais c'est un studio qui est russe, je crois, qui s'appelle Nunchaku Games. Le look du jeu est vraiment attirant. On a des animations qui me font presque penser à Alone in the Dark de l'époque. Non, pas Alone in the Dark. Le jeu qui était super bien animé. Bref, peu importe, c'est très très vieux. Mais ça a l'air vraiment sympathique. À voir si le gameplay suit ensuite. Mais à garder dans un coin de la tête, garder un coin d'œil dessus, un coin de l'œil dessus. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, vous aurez compris. Moon Samurai. En plus, à la fin du trailer, il sort une sorte d'épée laser, et du coup, tu te dis, waouh, ça va pouvoir faire des trucs cool. Et le dernier jeu que je voulais évoquer, c'est celui qui m'a fait penser à Trinity. C'est un jeu qui s'appelle Necromunda Hired Gun, qui est un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000. Et qui est... Alors, je ne vais pas mettre la musique parce qu'on ne va pas se risquer des DMCA, mais c'est vraiment Warhammer 40 000, ambiance super métal, un petit peu augmentation de méca cybernétique. Et on a justement du métal en musique tout le temps. C'est un fast FPS, vraiment très fast, qui fait penser à Doom. Il y a du sang partout, ça explose. En plus de ça, on peut avoir des compagnons chiens qu'on peut équiper avec des mâchoires métalliques, ce genre de trucs. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça va plaire à Trinity.
J'adore, il dit, alors écoute, il y a du sang, on tire partout, il y a du métal. Alors j'ai pensé à Trinity. Oui, mais exactement, j'adore ce genre d'univers. Alors, je peux pas jouer tout le temps, tu vois, à des fast FPS, mais de temps en temps, tu vois, me faire un bon Doom, et ben j'adore. Donc là, oui, clairement, quand je vois les images, le jeu me tente pas mal. Ça a l'air bien énervé.
Ouais, voilà, je pense que c'est une bonne définition. Ça a l'air bien énervé, effectivement. C'est très dark, et en même temps un petit peu d'humour. Donc, Necromunda Hired Gun, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça arrive quand ? Ça arrive le 1er juin sur PS5 et Xbox et PC.
Bientôt ?
C'est tout près, ouais.
Ouais. Ah bah, tu vois, j'avais pas de jeu à faire, bah c'est parfait.
Necromunda. Bon, on va partir sur les rumeurs et news rapides. D'abord, il semblerait, bon, on va avoir des news très vite hein, sur ça, a priori à l'E3, mais il semblerait que Team Ninja soit en train de préparer un Final Fantasy Souls-like qui s'appellerait Final Fantasy Origin et qui serait exclusif à la PlayStation 5. Je pense que c'est une convergence de différentes communautés qui, je ne sais pas si ça sera, l'explosion de joie générale ou l'intrigation générale de tous ces gens-là qui vont lever un sourcil. Mais bon, c'est quand même, quand on met Final Fantasy et Souls-like dans la même phrase, forcément, c'est intriguant. On a Netflix qui est en train de chercher des gens pour développer une activité jeu vidéo. Alors, on sait que c'est compliqué souvent pour les sociétés de la tech d'aller dans le jeu vidéo, mais Netflix, c'est pas les derniers dans le développement de choses un petit peu difficiles, et il n'est pas du tout impossible qu'ils réussissent à faire quelque chose là-dedans. C'est pas surprenant parce qu'ils sont arrivés au bout de leur croissance dans l'abonnement pour la vidéo. Peut-être qu'ils cherchent de la croissance, et ils seraient en train d'étudier l'idée d'avoir un service à la Apple Arcade, donc un abonnement avec différents jeux. Alors ensuite, comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'on va télécharger des jeux dans l'app Netflix? Est-ce qu'il y aura une application différente? Est-ce que ça sera du streaming? Est-ce que ça va pas plaire à Apple? Est-ce qu'on utilisera les manettes connectées à notre PC ou notre box? On ne sait pas. Mais c'est intriguant de se dire que Netflix va peut-être explorer le domaine des jeux vidéo. On continue avec les news, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui vous parlent. Je parle d'Overwatch parce que, évidemment, c'est toujours un amour pour moi, mais il a été annoncé qu'Overwatch 2 passerait du 6v6 en PvP à 5v5. Et là, ça a l'air de rien, donc ça sera des équipes de 5 plutôt que des équipes de 6. Il y aura un tank, 2 DPS et 2 healers. Et la raison pour laquelle je précise, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les équipes de l'Overwatch League qui avaient aujourd'hui 2 tanks, 2 DPS et 2 healers vont devoir se séparer d'un tank. Alors forcément, tous les tanks, tous les joueurs ne sont pas sur les bancs, en jeu à chaque match, mais ils avaient quand même de quoi alimenter 2 tanks dans l'équipe. Là, qu'est-ce qui va se passer pour tout cela? Je pense qu'il y a eu des e-sportifs et des e-athlètes qui ont eu des sueurs froides en entendant ça, parce que c'est leur boulot.
Tous les tanks devaient être en sueur, là.
Mais ouais.
J'imagine que ouais, dans la structure, etc., ça doit être assez angoissant de voir toute la méta changer. Ça change absolument toute la méta et comment ils fonctionnaient. Ça change la structure de l'équipe, ça change la structure de toute leur strat. C'est un gros changement, quoi.
Complètement, ouais, complètement.
C'est comme une décision particulière, ouais. Que la réponse à un problème d'équilibrage des tanks dans les teams, ce soit on réduit la taille des teams et pas on va revoir les tanks, leurs compétences ou comment
ça,
ils fonctionnent
aussi,
en synergie.
C'est un choix difficile au niveau du développement de jeu et je pense qu'on pourrait discuter de ça pendant longtemps. Je crois qu'on peut l'expliquer de différentes manières, mais la réception des équipes, oui, c'est sûr que c'est... Ok, donc je cherche du boulot, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Tous les F-Tanks se disent, je vais devoir changer de métier, quoi.
Ouais.
Peut-être qu'ils pourraient
aller sur... Après, moi, du point de vue un peu plus grassroots, c'est qu'au niveau communautaire, on va dire à la base de la pyramide compétitive pour un jeu, ça va beaucoup simplifier l'organisation des tournois, parce que réduire la taille d'une équipe, en fait, dans un jeu, c'est d'autant plus facile de monter une équipe avec ses potes, de rejoindre un tournoi. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'une équipe de 2, c'est infiniment plus facile qu'une équipe de 5. Et le format 6v6, qui était quand même très différenciant pour Overwatch, on le voit au niveau communautaire, c'est vraiment... Enfin, ça complique encore plus par rapport à un Counter-Strike, Rainbow Six, enfin tous les autres jeux, en fait, qui sont en 5v5. Donc ils ont peut-être voulu s'aligner aussi sur la concurrence et de dire, voilà, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble dans n'importe quel autre jeu, elle peut venir faire un tournoi d'Overwatch, elle peut faire du compétitif communautaire beaucoup plus facilement. Alors encore une fois, je dis pas que c'est la raison, hein, mais c'est une des conséquences. Et peut-être que ça indique peut-être aussi une volonté de monter quelque chose de plus solide à partir de la base de cette pyramide compétitive et de pas juste s'occuper du top e-sport et de la Pro League.
Intéressant, ouais. Bah, ils ont, eux, ils ont donné des raisons qui étaient plus au niveau du développement, des questions d'impact sur le jeu de chaque joueur, des questions de lisibilité des matchs, etc., etc. Mais peut-être que ça a joué aussi, effectivement. C'est une analyse à laquelle je n'avais pas pensé.
Enfin, encore une fois, c'est étonnant de dire, bon, il y a un problème de lisibilité dans notre jeu, on supprime un joueur.
Bah non, parce que 6 joueurs en même temps, ça fait plus... Enfin, 12 joueurs à l'écran, 12 personnages à l'écran, c'est moins lisible que 10. Donc, tu dois te préoccuper de 11 joueurs ou 9, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, de ce qui se passe à côté.
Non, bien sûr, mais d'un autre côté, enfin, s'il y a un problème de lisibilité des compétences dans le jeu, c'est, ben, je pense pas que retirer un tank de chaque côté, alors ils sont en première ligne, ça reste les personnages que tu vois constamment dans un match parce qu'ils sont devant, donc forcément leurs compétences sont celles qui sont visibles pendant le match. Mais enfin, ça reste assez étrange comme justification de dire, enfin, c'est de l'équilibrage, donc on supprime un rôle.
Bon, on pourrait en discuter plus longuement, ça serait un sujet entier. Moi, je pense que ça se justifie, il y a peut-être autre chose derrière, mais bon.
S'ils le font, oui, c'est... En même temps, c'est leur jeu, c'est leur décision. Hein. Donc, il y a de très bonnes raisons qu'on ne connaît peut-être même pas. Et...
Possible.
On verra bien.
Virtua Fighter 5, encore au niveau de l'e-sport, va revenir en version Ultimate Showdown. Et il arrive aussi le 1er juin. Alors, Virtua Fighter, pour ceux qui connaissent, c'est tout un pan de l'histoire du jeu de combat, en particulier au Japon. Mais il arrive sur PlayStation 4 et il fera partie des jeux offerts dans le PlayStation Plus en juin avec Star Wars Squadrons. Donc, un bon cru pour le PlayStation Plus. Bon, peut-être plus pour les joueurs de jeux de combat nostalgiques, même si j'ai jamais joué. C'est le genre de jeu que je suis content d'avoir, mais que j'aurais pas acheté. Donc, Virtua Fighter 5, je le lancerai sur PS5. On a aussi eu des annonces pour Square Enix. On a eu une annonce sur Dragon Quest 3 qui va être remaké en HD 2D, un petit peu comme Octopath Traveler, et qui va arriver, je ne sais plus quand, mais bon, si vous n'avez pas encore fait Dragon Quest 3, ça sera l'occasion de le faire. C'est très très vieux, hein, Dragon Quest 3. C'est... 1980. Bon, là encore, je vais pas dire de bêtises, mais c'est vraiment un look des années 80 presque, Dragon Quest 3. Donc là, un remake, c'est une vraie peut-être 90, mais c'est une vraie occasion de le ressortir si vous n'avez jamais joué à cette série qui est un petit peu mythique. Et donc Dragon Quest 3, on a aussi un écran d'annonce de Dragon Quest XII. Vous savez, c'est ces choses que je n'aime pas. C'est les annonces avec rien du tout, ni date, ni détail, juste un titre. Et bon, on savait que Dragon Quest XII allait arriver. Là, c'est un gros titre en feu qui fait Dragon Quest XI. Et oh, on voit un 1 qui vient s'ajouter au chiffre romain. Et ça fait 12. Oh mon Dieu! D'accord, donc c'est Dragon Quest XII. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais, le trailer.
Ça arrive souvent, après, et oui, je comprends.
Quand Nintendo fait ça pour Smash Bros, c'est des génies, donc...
Bon, bah, ça m'irrite autant, hein, quand ils ont présenté, Metroid Prime 4 comme ça, ça m'a frustré tout autant, tu vois, donc... Mais bon, bref, on a ces jeux-là qui arrivent, et puis on a des dates pour Pokémon Legends, Arceus et Brilliant Diamond et Shining Pearl. Ça arrive donc en janvier 2018 pour Pokémon Legends Arceus, et Brilliant Diamond et Shining Pearl, c'est le 19 novembre. Donc voilà quelques centaines de milliers de Switch vendus en plus pour Nintendo, assez facilement finalement. Bravo à eux. Et on conclut avec quelques news industrie rapides. La manette PS5 est branchable sur PC, bien sûr, mais Metro Exodus, le remaster remake, est le premier jeu à utiliser l'adaptive trigger de la PlayStation 5 sur PC. Ce qui veut dire que... Alors, ce qui est intéressant d'une manière générale, c'est que ça veut dire qu'on peut utiliser les manettes, les gâchettes adaptatives de la PlayStation 5, de la manette de la PlayStation 5, sur PC. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça peut permettre aux joueurs PC... Alors, en l'occurrence, c'est uniquement pour la version Enhanced de Metro Exodus, mais ça veut dire que ça va arriver, j'imagine, sur plus de jeux que juste Metro Exodus, et c'est plutôt sympa. Vous savez, l'adaptive trigger, c'est le fait que on appuie sur la gâchette et ça bloque à un moment. Il faut forcer un petit peu plus pour déclencher l'action. Et c'est assez sympa, mais il y a peu de jeux qui l'utilisent. Mais le fait que ça soit utilisable sur PC aussi, ça pourra généraliser l'adoption de cette technologie. L'Unreal Engine 5 arrive en accès anticipé. Allez regarder la dernière démo de l'Unreal Engine 5 et vous allez voir à quel point on n'est pas encore dans la next-gen du tout. Hein. Il y a une démo où il y a des environnements qui sont peut-être très propices à à mettre en avant les qualités du moteur, mais quand même, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit avec les jeux actuels, même quand ils sont développés pour PlayStation 5 ou Xbox Series X. Hein. Quand on voit ce que ça donne avec ces images-là, on se dit que le meilleur de la next-gen est encore loin devant. Peut-être qu'on en verra un petit peu avec Horizon Forbidden West ce soir. On va juste dire deux ou trois trucs en plus. Si vous avez une Surface Duo, vous pouvez utiliser le streaming du Game Pass avec la manette sur l'écran du bas de votre Surface Duo, un truc pas très utile, mais bon, voilà. J.J. Abrams a confirmé qu'il travaille sur un film Portal. Ça fait un moment qu'on a des rumeurs, c'est confirmé, il travaille dessus, alors ça ne veut pas dire qu'il va sortir. Il n'y aura pas de BlizzCon en 2021, mais une sorte de BlizzCon Line début 2022, peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment de jeu à montrer encore. Et pour répondre à un truc qu'on disait la semaine dernière, il y a bien un jeu officiel des Jeux Olympiques 2020 qui sort ces temps-ci, le 22 juin 2021, sur toutes les consoles. Je vous étonnerai pas en vous disant que ça n'a pas l'air non plus. C'est un trailer de 30 secondes. Ça n'a pas l'air incroyable comme jeu, hein, mais bon, voilà, on en parlait la semaine dernière. Le jeu officiel arrive au mois de juin. Et c'est tout pour toutes les news qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Un grand merci à Trinity et Geoffroy d'avoir été présents avec moi dans cet épisode. Avant de se quitter, je voudrais tout de même donner à Trinity et à Geoffroy l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, Trinity ?
Comme d'habitude, sur Twitch, vous tapez Trinity et je suis en live 5 à 6 fois par semaine. À part cette semaine, je vais être en vacances. Oui.
Tu es en live, je ne me rendais pas compte que c'était aussi souvent. Tu fais combien d'heures par jour?
Moi, en fait, je fais à peu près 35 heures par semaine de live.
De live, mais c'est pas... 35 heures de live, c'est pas juste 35 heures au boulot. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai toujours eu l'impression que tu ressors de 3-4 heures de live, t'es épuisé. Est-ce que c'est pas le cas ?
Moi, je fais plus là, selon ce qui se passe, je suis plus entre 6 et 8-9 heures de live quoi, par jour.
Oh, mais comment tu tiens ?
La passion.
C'est la bonne réponse. Très bien, bravo Trinity. Donc,
et les vacances aussi. Attends. J'ai dit non, j'ai eu un bon point du coup avec cette réponse.
Exactement. Mais,
puis les vacances aussi. Voilà, là je prends une petite fin de semaine, je pars à Montpellier. Donc voilà, une petite semaine, prendre le soleil.
Très bien. Écoute, amuse-toi bien. Geoffroy, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, si tu es quelque part sur Internet en même temps?
Alors moi c'est sur Twitter, @levomact, et sinon sur Tournament. Si vous contactez Tournament un jour, vous aurez affaire à moi.
Très bien, Tournament qui est un outil de gestion de tournois d'e-sport en ligne.
Exactement.
Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur notpatrick.com pour avoir les liens vers tous les podcasts que je fais, y compris le rendez-vous jeu, et le lien vers le Patreon du rendez-vous tech. Je dis le rendez-vous jeu, je voulais dire le rendez-vous tech, bien sûr. Mais vous pouvez aussi trouver le lien vers le Patreon du rendez-vous jeu si vous souhaitez soutenir l'émission. Il y a plein de trucs sympathiques à avoir en contrepartie, en plus du plaisir, du bonheur, de l'honneur de faire partie des gens qui sont activement dans la production de l'émission. Et écoutez, l'E3 arrive bientôt. Je pense que le pré-E3 sera presque en train d'arriver au prochain épisode. Donc, c'est la période un petit peu folle, la fête du jeu vidéo. J'espère que cette année, ça sera un petit peu moins éparpillé que l'année dernière, mais dans tous les cas, on sera avec vous chaque semaine pour résumer tout ce qui se passe et puis pour geeker un petit peu ensemble. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, je vous donne en tout cas rendez-vous toutes les semaines dans le rendez-vous jeu et je vous fais plein de bises à tous et à toutes. Ciao, ciao.